Bienvenue pour ce nouveau podcast proposé par la MO Samarcande.
Mon papa, même si aujourd'hui c'est très conflictuel, ça reste une personne très importante pour moi. Quand il est là, il y a du soleil partout dans ma vie. Malgré toutes les crasses qu'il me fait, ça reste mon papa.
Ah, ça moi je peux pas me plaindre. Moi j'ai eu des bisous à la maison.
Devenir adulte en harmonie pour soi-même et avec les autres, est-ce que c'est plus difficile pour le jeune en fonction du milieu dans lequel il grandit ? Je ne suis ni un expert en sciences sociales ni en psychologie. Je suis un éducateur qui propose des animations d'expression radiophonique à des jeunes placés en IPPJ depuis 17 ans. Ce qui m'a amené au fil du temps à me questionner sur l'utilisation que l'on pourrait faire de ce contenu pour permettre à tout un chacun d'entendre certaines réalités vécues par ces jeunes, mais aussi la réaction de professionnels qui vont s'exprimer dans ces podcasts. Si vous vous posez des questions sur la famille au sens large et l'impact que l'éducation au sein de cette structure peuvent avoir dans la trajectoire des jeunes, eh bien, ce sujet de podcast est fait pour vous.
Je t'interdis d'élever la voix sur moi. Je suis ta mère. Tu comprends ?
Oh my God.
Moi, je veux dire que c'est quand même la femme, cette femme-là qui m'a mis au monde.
Maud, 15 ans, rencontrée à l'IPPJ de Saint-Servais.
Et du coup, je vais pas dire, elle m'a mis au monde et voilà, basta, c'est la fin, elle est là. Non, justement, moi, je vais être une maman comme ça aussi plus tard. Hein. Moi, si je fais un enfant, je sais pas que j'aurai besoin de tout savoir, mais je vais m'inquiéter pour lui. Que si elle vient me raconter dans ma chambre, par exemple, oh, maman, je suis tombée amoureuse d'un garçon ou je sais pas quoi, mais c'est pas que ça va me faire plaisir, mais je vais me dire, ma fille, elle me fait confiance. Elle sent que je suis là pour elle et que. Mais si elle me pose des questions, je pourrais la conseiller et tout. Mmh. Je vais pas dire que j'ai été dans la chambre de ma mère en disant « Maman, je suis tombée amoureuse ». Non, mais je me suis directement confiée à ma maman. Par exemple, dès que j'ai fait ma première fois, j'ai appelé ma maman et c'était la première à être au courant. Et j'ai dit « Voilà, maman, comme ça, t'es au courant ». Elle m'a dit « Merci de me le dire », mais bon, je trouve ça trop tôt. Et après, elle m'a conseillée, elle m'a dit « Voilà, pour moi, c'est pas quelque chose que... Je suis d'accord, mais tu me l'as dit et je suis contente. »
L'extrait que l'on vient d'entendre parle de sujets qu'il est parfois difficile d'aborder avec ses parents. Explorons à partir de cet exemple différentes questions d'ordre éducatif, ainsi que différentes postures dans lesquelles nous pourrions nous reconnaître.
Je trouve que c'est comme une espèce de réconciliation entre cette jeune fille-là et sa mère. Elle est très consciente des problèmes de sa mère, mais maintenant, avec ce que je viens d'entendre, elle ne se les applique pas à elle-même. Elle est une autre personne. Elle en a conscience. Mais sa mère, elle ne la reniera pas. Et c'est bien comme ça. Et c'est vrai qu'on voit déjà qu'elle, sa première fois, elle a dû en parler. Je suis certaine que sa mère, sa première fois, elle n'en a parlé à personne, que ça s'est peut-être pas bien passé, parce que ça ne se passe pas toujours bien. Je vais dire, cette fille-ci, elle a beaucoup de chance. Pour moi, personnellement, elle pourra continuer sa vie sans trop de problèmes, parce qu'elle a mis beaucoup de choses à plat. Beaucoup de choses à plat. Et au moins, le dire, c'est bien.
Franchement, ça, c'est une relation idéale, je trouve. Enfin, pas forcément idéale, parce qu'il y a beaucoup d'autres trucs qui diraient qu'une relation entre mère et fille est idéale. Mais, justement, avoir cette confiance envers son parent, être confortable, à l'aise de dire certaines choses à son parent... C'est vraiment c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. Par exemple, l'exemple de la première fois, j'ai jamais eu ça avec mes parents. Même quand je suis tombée amoureuse pour la première fois, j'ai jamais eu ça avec mes parents. Et franchement, ça peut aider à beaucoup de choses. Ça peut rapprocher les parents et l'adolescent. Ça peut beaucoup les rapprocher en mode « tu me fais confiance, moi aussi je pourrais te faire confiance », des choses comme ça, par exemple. Mais quand ça n'arrive pas, justement... c'est que l'enfant sent le besoin de cacher des choses à ses parents. Et ça, c'est triste. Parce que quand ça arrive, on ne sait jamais ce que l'adolescent peut cacher vraiment. Parce que s'il cache que je suis tombée amoureuse, j'ai fait ma première fois, j'ai eu ça à l'école et tout, s'il cache ça, il pourrait cacher quoi d'autre ? Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut absolument ce genre de confiance dans une famille. Faut pas tout dire à sa mère, quoi. Mais évidemment, faut garder quelques trucs pour soi, faut avoir sa vie privée. Tout le monde dans une famille doit avoir sa vie privée, bien évidemment. Mais c'est surtout le fait de pouvoir dire les choses à ses parents. de ne pas avoir honte de dire certaines choses à ses parents et de ne pas avoir peur de dire certaines choses à ses parents.
Est-ce que tu penses que les parents, parfois, ils oublient, ils ont la tentation, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais la tentation d'oublier que leurs enfants grandissent?
Certainement, qu'effectivement, pour le parent, le temps passe très très vite. Donc, en même temps, il y a des signes extérieurs de prise d'âge, mais il y a des enfants qui grandissent peut-être plus vite que d'autres ou qui se mettent dans des positions où on voit effectivement pas mal de jeunes filles très très jeunes qui veulent déjà s'habiller comme des adultes, prendre des attitudes, et donc ça, les parents se disent, mais tu es encore un enfant, et ça, tu es à côté, quoi, ça va pas. Et pour le parent, c'est compliqué, parce que est-ce qu'il a un désir que son enfant reste plus petit, ou est-ce qu'il a un désir que son enfant vive vraiment son enfance et son adolescence à un rythme plus calme, parce qu'on sait bien, une fois qu'on est adulte, que quand on est adulte, ça dure très très longtemps, et cette période-là, on y retournerait bien, mais c'est fini. Et donc, quand on est jeune, les jeunes, souvent, veulent brûler les étapes, ils ont chaque fois envie d'être autre, eux ont envie d'être adultes, et une fois qu'ils sont adultes, ils se disent, ah, si j'avais su, mais bon, là, les choses sont faites, quoi.
Pour un parent, son enfant, enfin, c'est son enfant, quoi, c'est sa petite chose, il a vu son enfant grandir par tellement d'étapes, il l'a vu quand pour la première fois, le bébé était dans ses bras, ou alors quand elle a fait ses premiers pas, quand elle a parlé pour la première fois, quand elle a été à l'école pour la première fois et tout ça. Et je pense que c'est surtout vouloir préserver son enfant. Vouloir préserver son enfant parce qu'on sait que justement il y a tellement de dangers dans le monde, il y a tellement de mauvaises personnes dans le monde ou des trucs comme ça, qu'on veut absolument protéger son enfant et justement l'empêcher un peu de grandir. Parce que par exemple, je sais pas, imaginons, ton enfant il a 16 ans. 16 ans, c'est quand même un petit grand âge, quand même.
C'est toi?
Ouais, moi, par exemple. Mais genre, 16 ans, c'est quand même une grande étape dans la vie d'un adolescent et d'un adulte en soi. Parce que 16 ans, chez les adultes, ils vont souvent se dire « Ah, 16 ans, je me rappelle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était marrant. » Mais justement, empêcher son enfant, par exemple, de vivre son adolescence pleinement, c'est un peu nuire à son développement, j'ai envie de dire, dans un sens où il ne va pas s'épanouir.
N'avons-nous pas tendance à projeter sur nos enfants, parfois, nos propres angoisses?
Alors, tu dis nous, je te dis moi non. Parce que j'ai fort conscience de ça, que c'est quelque chose qui peut... Donc j'ai toujours eu évité de cet écueil. Mais je crois qu'évidemment, c'est ce qui se passe dans la plupart des choses, et dans tous les discours qu'on a entendus, dans les autres podcasts que j'ai entendus aussi. C'est ça, le parent est angoissé, il a ses propres angoisses, et donc il envisage des choses qui vont être terrifiantes, il veut protéger son enfant. Donc l'attention, elle est bien sûr positive, mais il y a un transfert de l'angoisse, et parfois l'enfant, ça le tétanise. Mais ça peut être pour tout. J'ai donné des cours aussi de... Enfin, je m'éloigne un peu, mais j'ai donné des cours de natation à des petits qui apprenaient donc, à apprendre à nager vraiment quand ils sont tout petits. Les parents, s'il y avait les parents... Non, moi, je préférais que les parents ne soient pas là, mais quand les parents étaient sur le bord, un parent crispé, l'enfant s'accrochait à moi terriblement. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui se transmet. Si le parent est zen, ben, l'enfant va être zen et ne va pas avoir cette peur. Donc, il y a quelque chose qui se transmet de là, je crois, vraiment. Donc, je te donne cet exemple-là concret, mais ça se passe à un autre niveau. Ouais.
Est-ce qu'il faudrait davantage puiser dans nos souvenirs d'enfance ou d'adolescence pour réussir à donner des réponses à nos enfants?
Je peux vous dire par expérience que les petits-enfants, comme on ne se voyait pas beaucoup, je n'avais pas l'occasion de raconter. Et maintenant que je suis... Et puis, je n'avais peut-être pas envie. Maintenant que je suis vieille, dès qu'on se voit, je raconte des choses à mes petits-enfants. Et que par rapport à ma vie d'avant et par rapport même à leurs parents, qu'ils ne savaient pas. Et que leurs parents, parce que donc au fond je suis comme le relais que je me permets de dire, que leurs parents, ils savent, mais ils ne sont pas encore en phase avec envie de raconter à leurs enfants. L'écart n'est pas encore assez grand. Alors dit que moi je peux raconter plein de choses, ils adorent.
Toutes les grands-mères ne sont pas comme toi.
Ah non, ça c'est sûr. Non, mais il y en a beaucoup.
Alors ça, je pense que... Non, parce qu'on est tous singuliers, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce qui était une bonne réponse pour moi ne laissera peut-être pas pour mon enfance, mais on peut lui parler de nos souvenirs d'enfance en disant voilà ce qui m'est arrivé à moi. Mais faire un parallèle et vouloir reporter la même chose, enfin, qu'il y a un copier-coller, donc ça non, parce que chacun est justement singulier. Et puis les temps ont changé aussi. Hein.
Comment conseiller l'adolescente ou l'adolescent qui souhaiterait aborder des sujets qui pourraient fâcher ses parents?
Franchement, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. Et franchement, les adolescents qui arrivent à faire ça, bravo sur vous, hein, parce que c'est franchement très difficile. Hein, surtout quand on a des parents qui réagissent très mal, je vais dire, quand on aborde le mauvais sujet ou alors qu'on parle du mauvais truc au mauvais moment.
C'est quoi un mauvais sujet?
Je sais pas, par exemple, un truc qui s'est mal passé, ou alors un truc que les parents ont vécu, ou alors un truc que l'adolescent a vécu. Ça peut être tout et n'importe quoi, ou alors même des sujets tabous au sein de la famille. Genre, par exemple, l'homosexualité, ou alors le monde qui évolue, des trucs comme ça. Ça peut être des sujets tabous dans certaines familles. Et justement, aborder ce sujet-là, ça peut être très difficile et... Franchement, c'est faut le faire avec le cœur, quoi. Faut le faire avec le cœur. Si tu trouves que c'est le bon moment, si tu trouves que t'es prêt, faut jamais le faire quand on se sent pas prêt. Faut toujours le faire quand on se dit là, c'est le moment que je dois le faire. Moi, ça m'est arrivé très 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 rarement que je fasse ça avec mes parents, mais moi, je m'imagine surtout c'est se dire là, faut que je le fasse. Je me sens prête et tout, donc je vais leur parler à cœur ouvert, quoi. Je vais leur parler d'enfant à parent, quoi. Comme si... dans sa tête, je pense, le mieux, c'est de s'imaginer genre la meilleure des façons où ça pourrait se passer. Genre en mode, mes parents vont m'écouter, ils vont me comprendre. C'est comme ça que ça devrait se passer et tout. Et même si ça se passe pas comme ça, qu'ils veulent pas nous écouter, qu'ils veulent pas parler de ça ou quoi, tant pis. Mais voilà, quoi. Après, il faudra se dire... Ça va créer le fossé, il va un peu plus s'agrandir entre mes parents et moi, mais c'est pas forcément de ma faute.
Si tu n'arrives pas à le dire?
Non, si les parents ne veulent pas l'entendre.
Si tu le dis et que les parents ne sont pas très contents ou toi tu n'es pas satisfaite de leur réponse, c'est ça?
Mais faut jamais se dire c'est de ma faute si ça a fait ça sur la relation entre mes parents et moi. C'est jamais de ta faute en soi.
Donc il est pas forcément nécessaire de dire tout à ses parents.
Je pense, ouais, il n'est pas forcément tout nécessaire de tout dire.
Les parents ne seraient pas contents d'entendre ça, de ma part.
En soi, c'est aussi genre laisser une vie privée à son enfant.
Donc, pas le dire à ses parents. Et si les parents le remarquent un jour en chipotant, tu vois, dans un cabinet intime ou ce genre de choses, est-ce que ça ne peut pas rendre plus compliquées les choses après?
Franchement, j'ai envie de dire, si ton enfant a décidé de le cacher pendant aussi longtemps... C'est qu'il faut se poser des questions sur toi-même aussi. Sur les parents, justement. Il faut se poser des questions sur toi. Pourquoi mon enfant, il a eu cette peur ou alors cette crainte de me dire ça? Pourquoi il ne s'est pas, en fait... Pourquoi il ne s'est pas révélé? Pourquoi il n'a pas révélé qui il est vraiment, à mes yeux? Parce que, en fait, ton enfant, il doit se dire, peu importe ce que je dis à ma mère, peu importe ce que je dis à mon père... Il m'aimera tel que je suis parce que je suis son enfant. Je suis son enfant, je suis le fruit de son amour. Et il est censé m'aimer peu coûte que coûte. Et si ton enfant ne se dit pas ça, c'est qu'il y a un gros problème. Même pas, genre actuellement, il y a eu un gros problème avant et ça peut causer ça. Et franchement, c'est triste. C'est triste qu'un enfant doit se cacher de ses parents ou alors ait honte de dire certaines choses à ses parents. Parce que t'as mis au monde cet enfant. Cet enfant, il n'a jamais demandé d'être là. Donc, t'es obligé de l'aimer.
Je te remercie beaucoup pour l'exercice, Annette. J'espère que je ne t'ai pas embêtée.
Pas du tout.
Et j'espère que tu as apprécié cet exercice.
Oui, c'est intéressant. Parce que je vois parfois des petites émissions à la télé, avec les jeunes, où on parle d'un petit sujet. Eh bien, il faut faire parler les enfants. Parce que les enfants... mais attends, il y en a qui sont drillés, on ne saurait pas leur avoir un mot. Ils sont verrouillés par leurs parents. Ça, tu ne racontes. Dans le temps, il y avait beaucoup de familles comme ça. Hein. Beaucoup, beaucoup. Ça, tu ne le dis jamais. Hein. Ça, tu ne le dis pas. Tu ne le dis à personne. Hein. Et ce n'est pas uniquement des viols intrafamiliaux. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est par exemple des questions d'argent ou des questions qu'on a fait ici ou des trucs. Voilà. Voilà. Dans le temps, on vivait assez bien secret.
Oui, mais je crois que c'est effectivement très intéressant. Souvent, on fait l'inverse. Donc, on parle de la parole de l'adulte qui. Et on l'écrit, etc. Mais on ne parle pas suffisamment du point de vue du jeune. Donc c'est intéressant de partir de là, c'est riche d'enseignements et ça permet aussi à l'adulte de bouger, de faire bouger un peu les lignes.
Là, le message ici, c'est surtout de dire aux gens, les gars, vous n'êtes pas seuls. Que vous soyez parents, ados, enfants, personnes âgées, jeunes adultes, vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens, ils vous comprennent, il y a des gens, ils ont un peu vécu la même chose que vous et il y a plein de ressources qui sont là pour vous. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous aider.
Dont celle-ci.
Ouais, surtout Samarcande. Venez à Samarcande.
Merci Amika. Nous sommes arrivés au terme de ces 4 épisodes en espérant qu'ils puissent être une source de réflexion et pourquoi pas d'inspiration. Merci encore aux différents intervenants d'avoir participé à cet exercice d'écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts de Samarcande.
Pour grandir correctement, on a tous besoin d'être aimés.